Bonjour, c'est l'émission Il était une fois, l'émission sur le conte que vous connaissez bien maintenant. Et rappelez-vous, le conte, ça n'est pas que pour les enfants.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of.
C'est Chloé Gabrielli, la conteuse. Je suis très très contente de vous retrouver sur Fréquence 7, cette radio que j'adore. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un conte. Je suis certaine, sûre et certaine que vous ne le connaissez pas parce qu'il vient du Pérou. Et là, je vous assure qu'on va partir en voyage. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prête? C'est parti! Là où les Andes orientales s'inclinent humblement devant la région boisée de l'Amazonie, se dressait autrefois le petit village de Balsas, porte ouverte sur les chemins qui menaient au trésor de la forêt. On n'y comptait guère qu'une douzaine de maisons, un magasin et deux auberges, bâties sur les bords du Marignane, père de l'Amazone, le roi des fleuves. Les chercheurs d'or et les chasseurs de fortune arrivaient jusque-là à pied ou à dos d'animal. Ils récupéraient leurs forces dans l'une des auberges, se réapprovisionnaient en munitions, allumettes, quinine et alcool, puis repartaient à la poursuite de leurs illusions. Les bateliers faisaient passer d'une rive à l'autre du fleuve des aventuriers qui exhibaient les pépites arrachées aux montagnes, sans penser à ceux dont la fortune se limitait aux pauvres hardes qui les recouvraient à peine. Un jour, tandis qu'un oiseau gris, le manacaraco, annonçait la fin du printemps, Gregorio Pinedo rentrait chez lui, lorsqu'il aperçut au bout du chemin qui venait de la forêt une mule dont les flancs soutenaient à grand-peine un homme très fatigué. L'animal traversa le village, se dirigea vers le fleuve et s'arrêta à l'ombre d'un palmier. Ce palmier, les villageois l'appelaient l'arbre merveilleux et attribuaient à son pouvoir magique les faits les plus divers. À son pied, nombreux étaient ceux qui avaient échappé au désespoir et même à la mort. Autrefois, on racontait que deux jeunes enfants, abandonnés par leurs parents à l'ombre de cet arbre, étaient sur le point d'être dévorés par le jaguar, mais alors que celui-ci s'apprêtait à donner le coup de griffe fatal, ils se transformèrent en oiseaux et s'envolèrent vers les sommets. De même, on disait que plusieurs chasseurs, effrayés par le diable au fond de la forêt, avaient trouvé l'apaisement en buvant la sève de cet arbre. En somme, ils pouvaient, disait-on, réaliser les désirs les plus profonds de certains. Le cavalier mit pied à terre et, sans attacher sa monture, se laissa tomber sous l'arbre. Il paraissait exténué. Au moment où Pinedo, songeur, s'apprêtait, en passant, à lui offrir son aide, il entendit des gémissements provenant d'un panier attaché à la croupe de l'animal. « Mon Dieu, se dit-il, est-ce possible? Un enfant ?» Et il se mit à trembler comme s'il était sous l'emprise d'une grande émotion. « Oh, ce n'est pas si terrible !» cria l'homme. Alerté par les pleurs de l'enfant, il se dirigea vers la mule. L'autre n'en demanda pas davantage et déposa le bébé dans les bras du batelier. Du fond du couffin, il extirpa un bébé qui devait environ avoir 5 mois. Il se mit à raconter qu'il l'avait trouvé dans la forêt et l'avait recueilli pour lui éviter une mort certaine, puis il ajouta qu'il ne savait plus qu'en faire, car il serait impossible de franchir avec lui montagnes et ravins. Gregorio Pinedo, qui malgré ses désirs et ceux de sa femme n'avait pas eu d'enfant, dévorait des yeux le petit être qui s'agitait entre les bras de son présumé sauveur. À sa grande stupéfaction, il vit que le bébé, curieusement, passait d'une couleur à l'autre. Il lui sembla que de ses pieds était tourné vers l'avant et l'autre pied vers l'arrière. « Je ne peux pas continuer avec lui, » insista le chercheur d'or. « Laissez-le-moi. Ma femme et moi, nous nous en occuperons, » lui dit Pinedo d'une voix troublée. L'autre n'en demanda pas davantage et déposa le bébé dans les bras du batelier. Celui-ci caressa doucement les pieds de l'enfant et fut confirmé dans son impression. C'est peut-être un Shulashaki, se dit-il, évoquant la légende de ces êtres de la forêt dont les pieds étaient tournés en sens contraire. Car, disait-on, leur âme se débattait pour appartenir à la lumière, au jour, tandis qu'une force contraire les entraînait vers l'obscurité. Cette drôle d'idée le fit sourire. Il serra contre sa poitrine l'enfant qui lui tombait du ciel et jeta aux alentours un regard inquiet. Car soudain, il était seul sous le palmier. Pendant ce temps-là, l'homme et la mule avaient traversé le fleuve. Il les aperçut sur l'autre rive, juste avant qu'ils ne disparaissent par un sentier escarpé longeant crêtes et précipices. Les Pinedo appelèrent l'enfant Ulico. Il était, selon les villageois, l'œuvre du palmier magique. On se moquait de la curieuse position de ses pieds et de la soudaineté avec laquelle il passait d'une couleur à une autre sans la moindre émotion ou contrariété. Cela ne l'empêchait pas d'être un enfant souriant et espiègle qui avait rendu la joie de vivre au couple vieillissant qu'il avait adopté. Ceux-ci veillaient à ce qu'il ne souffre pas d'être un enfant différent des autres et ils lui enseignaient les secrets du monde. Le vieux batelier lui racontait qu'habitait au fond du fleuve Yara la mère des eaux, observatrice vigilante du comportement des hommes envers les êtres qui peuplent son univers. C'est ainsi qu'il prit connaissance de la fin réservée à certains pêcheurs, qui, voulant se faciliter la tâche, utilisaient un poison pour capturer les tortues. Tôt ou tard, il serait converti en Yakuruna, forçat obligé à travailler au fond des fleuves pour réparer le mal commis durant leur vie. Avec Florinda, sa mère, il apprenait à déchiffrer les messages inscrits dans les chants des oiseaux, les secrets de l'ortie pour soigner ceux qui souffrent de mélancolie, les propriétés de certains tubercules pour apaiser le cœur et les nerfs devant le danger. Ses parents lui révélèrent aussi que dans les profondeurs de la forêt régnait un géant qui pouvait aller d'un bout à l'autre du monde sans risque de se perdre parce qu'il était le maître de la lumière et de la connaissance. Le temps passait ainsi, entre les soins que lui prodiguaient ses parents et les moqueries de ceux qui s'amusaient de lui. Rien cependant ne parvenait à l'affecter. C'était là son village, avec ses avantages et ses inconvénients. Le moment vint pourtant où ses journées lentes et douces entre ses parents ne lui suffirent plus. À la tombée de la nuit, il devenait mélancolique, songeur. Il prit l'habitude, tandis que ses parents et tout le village dormaient, de passer des heures éveillées, accoudées à la fenêtre de sa chambre, perdues dans la contemplation des ombres qui se profilaient dans l'obscurité, ou de quelques mystérieuses lueurs rapides comme la pensée. Une nuit, ne résistant plus à la tentation, il rassembla tout son courage, sauta par la fenêtre et disparut dans les ténèbres. Il erra dans les ruelles du village, se dirigea vers la rive du fleuve et s'arrêta devant le palmier. Il respirait avec avidité les senteurs de la nuit, envahi par un immense bien-être. Mais brutalement, la pluie se mit à tomber et l'enfant alla se réfugier contre le tronc rugueux de l'arbre. Les éclairs zébraient le ciel, le tonnerre grondait. Ulico se mit à frissonner de peur et avant même que la pluie ne cesse, il reprit le chemin de sa maison. Après avoir ôté ses vêtements mouillés, il se coucha et une nuit illuminée s'empara de son sommeil. Ulico n'avait pas pensé que ses empreintes sur la terre mouillée révéleraient sa fugue nocturne. Il n'avait pas pensé que dans leur malice, les enfants décideraient de l'épier pour tenter de découvrir son secret. Le lendemain, dès la tombée du jour, Ulico, accoudé à la fenêtre, rêvait tout en suivant des yeux le vol des oiseaux dans le soleil couchant. Il resta là, immobile, jusqu'à ce que ses paupières alourdies de sommeil l'obligent à se mettre au lit. Le troisième soir, il n'y tint plus, et d'un air décidé, il enjamba l'appui de la fenêtre. Comme il s'enfonçait dans l'obscurité de la ruelle, des enfants cachés derrière les buissons se mirent à crier. « Tungshi, Chulachaki, Tungshi, Chulachaki !» entrecoupés de bruyants éclats de rire. Ulico se sentit bleuir, verdir, puis rougir de colère tandis qu'il passait devant eux. Shula Tchaki, hurlaient les enfants, tout à leur jeu cruel, tandis qu'Uliko disparaissait dans la nuit. Il s'enfonça dans le chemin qu'empruntaient les aventuriers et arriva jusqu'à une clairière où il s'arrêta en larmes, effrayé par cette méchante plaisanterie. Un agréable zéphyr filtrait entre les arbres et peu à peu, il retrouva son calme. Tout à coup, il lui sembla entendre une douce mélodie. Immobile, attentif, il essayait de comprendre d'où elle provenait. Lorsque tout à coup, un être emplumé sortit de la forêt et s'avança vers lui. « Salut, comment vas-tu ? » demanda l'oiseau. Uliko, stupéfait par cette apparition, ne répondit pas. « As-tu perdu ta langue ?» insista le musicien. Muet, l'enfant gardait les yeux rivés sur l'oiseau. « Tu n'as jamais vu quelqu'un comme moi ?» L'enfant se contenta de faire un geste affirmatif. L'étrange animal, qui ne le quittait pas des yeux lui non plus, ajouta « Tu verras tant de choses curieuses pendant ta vie, qu'un jour tu souriras de tout ce qui t'arrive en ce moment. Sois patient, bientôt ton sort sera changé. » Et sans plus lui accorder d'importance, il prit sa flûte et s'éloigna en entonnant le chant des adieux. Uliko, un peu triste, sourit et prit le chemin du retour. Le lendemain, le bruit de sa fugue nocturne se répandit dans le village. Il devint la cible des taquineries et de plaisanteries incessantes. Ses parents, qui pensaient aux circonstances de son arrivée dans leur foyer 7 ans auparavant, n'osaient pas intervenir. Mais Uliko devinait la peine qui les tourmentait. Il abandonna alors le chemin de ses aventures nocturnes et se mit à aider son père dans toutes les tâches quotidiennes, malgré les railleries des villageois. Il apprit ainsi que les hommes aiment l'habituel, ce qui leur est familier et banal, et que derrière les moqueries se cache la crainte qu'ils éprouvent pour toute différence. Les mois passaient. Uliko devenait de plus en plus taciturne, et un beau jour arriva, ce que nul n'attendait. Il en eut assez, et commença à se battre avec n'importe qui, au moindre geste, à la moindre grimace qu'il prenait pour une moquerie ou une provocation. Le désespoir s'installa dans son cœur et il reprit ses vieilles habitudes. On le revit dès la tombée de la nuit, accoudé à la fenêtre de sa chambre, poursuivant du regard quelque ombre mystérieuse. De temps en temps, il vagabondait par les ruelles à la poursuite de l'impossible. Par une nuit d'orage, alors qu'il marchait le long du fleuve, il commença à pleuvoir. Il plut et plut pendant des heures. Il tombait de telles trombes d'eau qu'on pouvait croire que le Maragnon entier se déversait depuis le ciel noir. Un bruit terrifiant s'échappait des entrailles du palmier. Et par moments, la pluie diminuait et les éclairs illuminaient le ciel sans que pour autant ne cessent les rugissements venus de l'arbre. Puis la tempête revenait rageuse, lâchant en grondant une avalanche d'eau sur la forêt, l'enveloppant de sa fureur. Uliko, pris de panique, complètement paralysé de terreur, s'aperçut cependant qu'une multitude de lumières bleues, rouges, vertes, dorées scintillaient dans la nuit, l'éclairant comme en plein jour. Puis il y eut un formidable éclair et Uliko s'évanouit. Lorsqu'il reprit conscience, il ne pleuvait plus. Tout était calme et une fine brume recouvrait la forêt. Il se releva, voulut s'appuyer contre le palmier, mais celui-ci avait disparu. Incrédule, épouvanté, il n'eut plus qu'une idée, s'enfuir à toutes jambes. C'est alors qu'il se rendit compte qu'il ne boitait plus. Il s'arrêta, stupéfait. Ses pieds étaient bien maintenant comme ceux des autres, tournés tous les deux dans le même sens. Fou de joie, il poussa la porte de sa maison, réveilla ses parents, leur raconta haletant tout ce qui venait de lui arriver pendant la nuit. « C'est le palmier, c'est l'arbre merveilleux qui a réalisé ton désir le plus profond !» s'exclama Giorgio Penedo, ébloui. À ce moment-là, grisé par l'émotion, ses parents lui révélèrent de quelle façon il était arrivé au village. À 5 mois, un jour semblable, il y avait exactement 10 ans. Le jeune garçon, debout dans le patio de la maison, tel un jeune arbre vigoureux, ne répondait pas. Tout à leur joie, jusqu'au lever du jour, ils parlèrent de la vie passée ensemble pendant toutes ces années. Ce fut sa mère qui lui raconta des événements survenus à Balsas 3 ans après son arrivée. après avoir arraché durant des années l'or des entrailles de la terre, une troupe d'hommes prenant le chemin du retour était entrée dans le village. Mais comme il était tard et que pendant des nuits ils n'avaient pas pu se reposer, ils décidèrent de dormir sur place. À l'aube, ils récupéreraient le temps perdu. Ils logèrent là où ils purent et se couchèrent, écrasés par la fatigue. Le dernier quartier de lune brillait dans le ciel de minuit lorsqu'éclata dans les ruelles un rugissement infernal. Presque tous les villageois sautèrent du lit et coururent chercher refuge entre les racines, trous et feuillages de l'arbre merveilleux. De là, ils virent le travail des Yanapuma, deux tigres noirs de forte corpulence. Ils égorgèrent, avalèrent les cervelles et burent le sang de tous ceux qui étaient restés endormis. Le massacre dura jusqu'à l'aube. Ne resta en vie aucun chercheur d'or. À l'arrivée du jour, les fauves disparurent et seulement alors les gens de Balsas quittèrent leurs cachettes. Plusieurs parmi eux furent obligés de construire d'autres maisons, car là où les Yanapuma avaient dévoré leur proie, ils étaient victimes de cauchemars qui les empêchaient de dormir pendant des mois. Quelques-uns dressèrent leur nouvelle demeure pas très loin de l'arbre, car proche de lui ils se sentaient en sécurité. Son père lui raconta encore d'autres événements de la vie locale, puis le batelier et son fils durent se rendre au travail. Ils avancèrent sur les galets des ruelles pour arriver au bord du fleuve. Là, ils constatèrent qu'il ne restait du palmier qu'un tas de cendres. « C'est sûrement la foudre, » dit Pinedo en embrassant son fils. Tandis que les bateliers du village préparaient leurs instruments de travail et que les femmes transportaient de l'eau jusqu'à leurs baquets remplis de linge, Ulico arriva à l'embarcadère. Les plaisanteries habituelles fusèrent, mais le visage d'Ulico demeurait impassible. Étonnés, ils le regardèrent attentivement et virent qu'il n'avait plus les pieds tordus. Ses pieds étaient comme les leurs, et le jeune garçon qui le regardait était comme les autres enfants du village. C'était un enfant du village. What a wonderful world. N'est-elle pas belle cette histoire du Pérou? Je suis sûre que vous ne la connaissiez pas et que vous avez voyagé avec toutes ces histoires, ces arbres et ces animaux. Il est déjà temps de nous quitter. On se retrouve de toute façon le mercredi et le samedi à 16h. Merci Sylvain pour la technique. Et d'ici nos retrouvailles, racontez-vous des histoires.